dans la ville bruyante. Ma pensée s'envole vers des lendemains qui chantent. Race où je voudrais t'emmener, près de l'océan, où ma case enfin la femme nous attend. Elle est si jolie, ma case en falaf. À l'écart du village, partie sur le sable. Refuge pour oublier toutes les barres. Et rassurer ton cœur. Je voudrais te faire connaître la case où l'on peut renaître. Sans pas la sépare de la mer. Paisible demeure dans l'immense décor. Entouré de bosquets toujours verts. Jeanne d'or, face à face à l'océan. La vie n'est pas si tranquille.
Ils ne sont pas démoniaques, non. Et pourtant, ils sont nos ennemis. Qui ? Les 1%, ceux qui décident, dirigent et possèdent. Ils ne nous mentent pas forcément. Ils détournent juste les réalités pour nous les faire paraître plus acceptables, plus à l'avantage de leurs intérêts. Par quel biais ? Celui des médias de masse. Parfois, plutôt que de nous mentir, ils choisissent certaines réalités à dire. C'est pourquoi les médias passent leur temps à parler de la radicalisation des musulmans plutôt que de parler des problèmes sociaux. Ils préfèrent parler de la neige plutôt que de nous parler du délitement des services publics. Ils préfèrent donner la parole à Éric Zemmour plutôt qu'il la donner à Frédéric Lordon. Le constat est simple. Ils nous manipulent pour qu'on ne leur demande jamais de rendre ce qu'ils nous ont volé. Qu'ont-ils volé, me direz-vous ? Toutes nos richesses produites. Comment peut-on croire qu'une personne puisse gagner des millions par an juste en travaillant ? Ils l'ont forcément gagné sur le travail des autres. Comme le disait Coluche, si vous voulez pouvoir vivre, travaillez. Si vous voulez devenir riche, trouvez autre chose. Mettre fin à ce cirque, à cette manipulation, à cette eau de la casserole que l'on nous fait monter très progressivement en température, afin de nous faire bouillir discrètement sans éveiller le moindre soupçon, pour démolir ce mur de la communication, où les licenciements collectifs deviennent des plans de sauvegarde de l'emploi, les bombardements des interventions chirurgicales, la répression des autochtones dans les colonies de la pacification, des essais de civils, des pertes collatérales, pour escalader ce mur qui nous bouche la vue, inonde de chiffres et de sondages orientés, effectués par des organismes non insoupçonnables de conflits d'intérêts. Pour s'affranchir, il faut rester vigilant, se renseigner, s'autodéfendre intellectuellement, analyser, décrypter. Car ne rien croire et tout croire sont à elles seules deux solutions également commodes qui nous dispensent de réfléchir. Le but n'est pas de dire aux autres ce qu'ils doivent penser, mais déjà de leur suggérer de penser par eux-mêmes. Et pour cela, pour que notre pensée soit construite sur des éléments justes, impartiaux, qui ne se limitent pas à la longueur de la chaîne, il faut avant tout garder les yeux grands ouverts.
What is right and what is wrong?
Garde les yeux grands ouverts.
Les bras ouverts, les yeux grands ouverts.
Qu'est-ce qui se passe ? Ben, on ne sait pas ce qui se passe. Et justement, c'est ça qui se passe, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe.
Je vois une génération entière qui travaille à des pompes à essence, qui fait le service dans des restos, qui est esclave d'un petit chef dans un bureau. La pub nous fait courir après des voitures et des fringues. On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui ne servent à rien. On est les enfants oubliés de l'histoire. On n'a pas de but ni vraie place. On n'a pas de grande guerre, pas de grande dépression. Notre grande guerre est spirituelle. Notre grande dépression, c'est nos vies. La télévision nous a appris à croire qu'un jour on serait tous des millionnaires, des dieux du cinéma ou des rockstars. Mais c'est faux. Et nous apprenons lentement cette vérité. On en a vraiment, vraiment plein le cul.
J'avance les yeux grands ouverts.
Donc quand on est riche, ça ne s'arrête jamais.
Et rassurez-vous, c'est pareil quand on est pauvre.
Pardon.
Mauvaise blague.
Pourquoi? Parce que même si on peut substituer la matraque à la conversation, les mots conserveront toujours leur pouvoir. Les mots sont le support de la compréhension et pour ceux qui les écouteront, l'énonciation de la vérité. Et la vérité, c'est que quelque chose va très mal dans ce pays, n'est-ce pas?
Camarades, d'aucuns diront que le syndicalisme est à la société moderne ce que le mercurochrome est à la jambe de bois.
Bonsoir à tous et bienvenue dans les yeux grands ouverts sur Radio Canu, 23h minuit. On a commencé à peu près à l'heure ce dimanche. Alors, comme il a été expliqué sur Facebook, il s'agit de la dernière émission des yeux grands ouverts. Pour des raisons tout simplement personnelles, le temps va commencer à nous manquer pour pouvoir produire une émission de qualité. Donc, par conséquent, il est préférable de prendre une décision comme celle-ci qui s'impose un peu. Plutôt que de faire une émission avec un contenu très très limité, ce qui n'était pas du tout dans l'objectif de cette émission, il est préférable d'arrêter pour le moment et qui sait peut-être la reprendre d'ici à quelques années pour avoir encore d'autres choses à dire et d'autres choses à observer. Mais pour le moment, cette décision est celle-ci. Alors rien n'est arrêté, bien entendu. Vous pourrez certainement me rentendre dans d'autres émissions sur Radio Canu, peut-être dans la causerie si éventuellement à un certain moment j'y serai invité. Et puis voilà, on verra sur le long terme ce qui peut éventuellement se passer. Alors pour ce qui est des infos de l'émission, concernant la page Facebook des yeux grands ouverts, elle restera en activité bien entendu. Des infos continueront à circuler sur cette page, des infos politiques, syndicales ou peu importe quel type d'infos. Mais la page des yeux grands ouverts continuera à vivre même si l'émission n'existera plus. Donc elle sera juste une page de relais, une page d'information plutôt qu'une page visant à faire un peu la publicité entre guillemets, même si ce mot est un petit peu galvaudé aujourd'hui, la communication, on va dire, la communication en émission. Donc elle servira à un autre type de communication qui sera une communication qui restera beaucoup plus militante, même si celle des yeux grands ouverts l'était par la force des choses. Alors, pour commencer cette émission, déjà je vous rappelais qu'il faut toujours, et qu'il est toujours d'actualité bien entendu, que Radio Canu cherche des dons pour subvenir à son activité. Puisque les loyers augmentent de plus en plus, il devient compliqué pour la radio d'arriver à vivre confortablement la situation. Donc l'objectif, ce serait d'acheter des locaux pour pérenniser l'activité de la radio sur le long terme. Et donc vous pouvez envoyer vos dons à Radio Canu. Donc c'est Radio Canu pour l'adresse, hein, Radio Canu, boîte postale 1101 69 201 Lyon CEDEX 01. Si vous n'avez pas réussi à voter, Radio Canu, boîte postale 1101 69 201 Lyon CEDEX 01, ou si vous avez ne serait-ce que n'importe quel doute, vous allez sur le site internet de Radio Canu et vous trouverez toutes les informations concernant cette campagne de dons. Pour l'émission les yeux grands ouverts, également le blog sera toujours en activité pendant un an. Vous pourrez réécouter tous les podcasts durant un an, éventuellement les télécharger. Hein. Pour cela, il suffit de vous mettre sur le lien de l'émission, de mettre sur le lien de l'émission que vous voulez écouter. Donc, alors attendez, je vais reprendre du départ. Déjà, si vous vous voulez aller sur le blog pour écouter tous les podcasts, l'adresse est blogs.radiocanu.org/lesyeuxgrandsouverts. Alors si vous galérez un peu à taper tout ça dans la barre d'adresse, vous allez tout simplement sur le site de Radio Canu, vous tapez, vous cliquez sur le planning pour voir tout l'ordonnancement des émissions, toutes les horaires, et vous cliquez sur les yeux grands ouverts et vous serez directement redirigé sur le blog. Et donc sur le blog, si vous voulez écouter, vous pouvez écouter les émissions en ligne en cliquant sur le petit lien rouge qui est dans l'article. Et si jamais vous voulez aller plus loin que juste écouter l'émission en ligne et que vous voulez carrément l'enregistrer pour, je sais pas, la mettre sur un MP3 ou je ne sais quoi, ou l'écouter plus tard ailleurs, et bien il suffit de mettre un clic droit et je crois que c'est enregistrer le lien ci-dessous ou enregistrer la cible ci-dessous, un truc comme ça. Vous cliquez là-dessus et ça devrait télécharger votre émission, l'émission directement sur votre PC pour pouvoir en faire ce que vous voulez derrière. Voilà. Eh bien, on va commencer cette émission. Si je voulais ajouter aussi un tout petit truc, pour tous ceux qui ont le désir de, enfin qui ont besoin de ce genre de choses, je tiens à signaler que il y a un syndicat sur Villeurbanne qui s'occupe de tous les litiges du travail. Donc si vous avez un souci avec votre employeur ou quoi que ce soit, vous pouvez vous renseigner d'ailleurs sur internet, parce que là j'ai pas l'adresse en tête, je ne me rappelle plus. C'est le syndicat CNT Solidarité Ouvrière qui est sur Villeurbanne et donc fait du soutien, du prud'homme et plein de choses comme celle-ci. Donc si vous avez besoin d'un coup de main ou des conseils sur le droit du travail, vous pouvez regarder sur internet ou directement vous présenter là-bas, mais là c'est plus compliqué parce que souvent il faut un peu un rendez-vous quand même parce que le permanent n'est pas toujours présent, et vous aurez plein d'informations et tout ce qu'il faut pour être soutenu en cas de litige. Donc c'est sur Villeurbanne, CNT Solidarité Ouvrière Lyon. Vous regardez sur internet, vous trouverez toutes les coordonnées. Voilà pour le petit filon. Alors, on va commencer cette émission. En fait, cette émission, comme c'est la dernière, elle sera un peu particulière, entre guillemets, hein. C'est pas plus particulier que ça, c'est juste que c'est tout simplement un début de torchon qui va dériver sur un sujet très important sur la société, enfin dans la société aujourd'hui, et sur l'organisation de l'économie dans notre pays. Donc on va commencer tout d'abord par un début de torchon et on dérivera sur ce petit sujet d'actualité.
La rage dans le mic, entre deux repas de soufflé, inutile de torchon.
On mélange pas les torchons et les sopalins. C'est compliqué.
J'adore ce jingle. Alors, pour le torchon de ce soir, il va nous falloir écouter avant tout cela, pour introduire le petit sujet qui va suivre, il va nous falloir écouter un petit extrait de ce qui s'est passé sur France Inter il y a de cela 3 semaines, il me semble. Alors certains vont peut-être penser que je parlais de je ne sais plus quel gars, je me rappelle plus comment il s'appelle, qui avait dit qu'il y avait des antisémites dans l'extrême droite et dans l'extrême gauche. Donc non, je vais pas parler de ça, parce que ça, je pense que pour ceux qui ont envie un peu d'approfondir le sujet, il suffit de vous abonner à l'émission de Daniel Mermet sur internet, hein. Vous allez sur le site là-bas si j'y suis, vous vous abonnez, et ils ont fait une émission super intéressante là-dessus, où ils décryptaient un peu toutes les conneries qui ont été racontées par ce brave garçon. J'allais dire, mais il n'est pas très brave. Mais non, c'est pas de cela qu'on va parler. Je vais vous laisser juste écouter le petit extrait de ce qui s'est passé dans la semaine sur Inter et qui m'a inspiré pour la suite de ce papier.
Au standard d'Inter, Jérôme qui nous appelle du Gard. Bonjour Jérôme.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Bonjour, je voulais demander à Monsieur le ministre du Travail s'il pensait véritablement que sans une réduction draconienne du temps de travail, c'est-à-dire du type 24 heures par semaine, et compte tenu des gains de productivité énormes depuis 50 ans, compte tenu du déplacement des dépenses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne dépense plus dans l'alimentaire mais dans des forfaits téléphones, etc., etc., il était vraiment envisageable de pouvoir réduire le nombre de chômeurs.
Merci Jérôme. Mais le partage du temps de travail.
La question a été posée, il y a même eu une commission qui a travaillé, commission d'enquête, qui a travaillé sur ce sujet à l'Assemblée nationale. La rapporteure en était une députée du Doubs, Madame Barbara Romagnan, qui concluait que peut-être faudrait-il aller vers une nouvelle réduction du temps de travail. C'est pas ma position. Ma position, c'est que les 35 heures sont encore débattues aujourd'hui, et donc je n'imagine pas que nous allions aujourd'hui vers une nouvelle réduction du temps de travail, au contraire. Par contre, faciliter sûrement l'accès à des travaux à temps partiel, rendre plus fluide le marché du travail, ça c'est des ambitions qu'on doit avoir. Vous le disiez tout à l'heure, en tous les cas, de manière comptable, le chômage a diminué dans les autres pays, on doit y arriver dans notre pays avec tous les dispositifs qu'on a mis en place.
Voilà ce qui m'a inspiré pour la suite de cette émission. Alors on soulignera que notre sympathique ministre du Travail prend soin de souligner qu'il n'imagine pas que nous allions vers une nouvelle réduction du temps de travail, et il prend soin d'ajouter au contraire. Donc ce qui sous-entend, on aimerait qu'il soit plus clair, s'il veut rallonger la durée du temps de travail, il faudrait qu'il nous le dise, on ne sait pas trop, il ne le dit pas. Comme beaucoup des personnes de ce foutu gouvernement, ils ne répondent pas aux questions sur lesquelles on les attendrait le plus, et pire, on a comme le sentiment qu'il y a toujours un discours sous-jacent. C'est un peu comme si Fantomas se cachait sous le masque d'un homme qui essaye, je dis bien, de se faire passer pour un type de gauche. Tout cela devient totalement grotesque. Que nous prépare cette majorité, on se demande encore. Je crois que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Alors les amis, il faut préparer la vaseline. Pour ce qui est de l'élément que soulève François Rebsamen, la commission d'enquête menée par une certaine Barbara Romagnan, nous nous sommes posé des questions aux yeux grands ouverts, et votre serviteur a jeté un coup d'œil sur ce qu'était ce travail. Il s'agit d'un rapport d'environ 250 pages suite à une proposition de l'UDI, le mouvement centriste, enfin le mouvement de centre droit. Une commission a été désignée pour une enquête qui porte cet intitulé sur l'impact sociétal, social, économique et financier de la réduction progressive du temps de travail. Madame Barbara Romagnan, députée PS du Doubs, a été nommée rapporteure, on pourrait dire rapporteuse, mais non, ils nomment cela rapporteur avec un E, ce qui est totalement stupide et c'est absurde. Et donc, elle a été nommée rapporteuse nommée par Thierry Doux, qui est un député de l'UDI et qui est président de cette fameuse commission. Alors des professionnels, des chercheurs, etc. ont été auditionnés, des chercheurs en sciences sociales, en économie, en ressources humaines, des professionnels aussi qui travaillent dans les entreprises. Donc vous pouvez retrouver tous ces comptes rendus des auditions sur internet, sur son site Barbara Romagnan. Alors à titre d'exemple, ont été auditionnés monsieur Laurent Lénard, je donne juste quelques noms histoire d'eux, professeur à l'Institut d'études politiques, monsieur Thomas Fantôme, directeur de la sécurité sociale, monsieur Emmanuel Macron aussi, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, monsieur Frédéric Leray, directeur de l'Institut de recherche économique et sociale, madame Isabelle Saviane, directrice des ressources humaines du groupe ERAM, donc là c'est à titre indicatif, je donne 3-4 exemples comme ça. Donc il y a environ 40 personnes qui ont été auditionnées pour cette commission d'enquête. Tout cela pour situer qu'il s'agissait de personnes issues d'un environnement très disparate. Donc c'est pas comme si on avait demandé que à 3 chercheurs en sociologie ou à 3 professionnels ou je ne sais quoi, on a auditionné 40 personnes qui étaient bien différentes. C'est le principe d'une commission, sinon on n'a pas un point de vue très très élargi. Bon alors les 50 pages ne sont pas que du travail de recherche, car à la fin se trouve le compte-rendu de la réunion suite aux résultats obtenus par cette commission, mais l'enquête n'est pas loin des 200 pages. Rassurez-vous, je ne suis pas suicidaire ou pas encore, je n'ai pas tout lu, je l'ai lu en diagonale seulement, mais force est de constater que l'on apprend beaucoup de choses. Alors on apprend par l'expérience du débat politique ou même idéologique que les opinions sont bien entendu diverses et variées. On l'apprend pas dans le rapport, ça c'est en général dans la société. On apprend qu'il y a des points de vue différents et idéologiquement qui sont très très variés, et surtout que souvent ils se clivent énormément les débats sur le thème économique. Le carrefour de la réflexion se situe entre ceux qui croient que le critère à mettre en avant prioritairement c'est la compétitivité d'un pays, quitte à faire des sacrifices drastiques sur la rémunération ou les conditions de travail, et ceux qui au contraire pensent que l'économie ne peut pas être la seule science qui dirige tout, et que au contraire il faut d'abord penser au confort humain, quitte à ce que l'économie et la compétitivité y perdent un peu au change parfois. Eh bien, ce qu'il ressort de cette étude, de ce rapport, se situe dans aucun de ces deux champs de réflexion. L'enquête désacralise ces deux modes de pensée pour en venir aux faits, et vient même jusqu'à la conclusion que les 35 heures ont amélioré la compétitivité de l'économie française. Donc même sans prendre la posture qui pour certains est prétendument idéologique de la personne qui se dresse face aux critères économiques, sans prendre cette posture, les 35 heures, en ne se basant que sur des critères économiques, qui sont souvent mis en avant par les économistes qu'on voit dans les médias, ces 35 heures ont été vraiment bénéfiques pour l'économie du pays. Et oui, on ne peut pas dire non plus que le gouvernement de Jospin était un gouvernement d'extrême gauche, c'est le moins qu'on puisse dire. On ne peut pas dire qu'il était anti-patronat, loin de là. Même si eux, au moins, laissaient la place il faut quand même le souligner, à une majorité plurielle. Il y avait des ministres communistes dans le gouvernement. Alors certains doivent se dire que cela peut, c'est peut-être évident que les 35 heures ont fait baisser le chômage, mais que la compétitivité elle est augmentée grâce à ça. Certains peuvent penser que je charrie, et non, pourtant. Cette commission d'enquête en arrive à cette conclusion, aux grandes dames du MEDEF ou de certains députés, voire même de ministres, hein, qui se prétendent socialistes mais n'ont pas envie de voir la réduction du temps de travail apposée à de nouveaux débats sur le chômage. Ça, on y reviendra plus tard. Alors, on a entendu maintes et maintes reprises, par exemple, pour rentrer un petit peu dans la profondeur du sujet. On a entendu à plusieurs reprises des personnes dont l'intérêt est souvent contraire, hein, à d'autres personnes, que les 35 heures avaient tué les exportations françaises, par exemple. On rentre dans les critères très économiques, mais c'est super intéressant et c'est même indispensable pour comprendre à quel point les 35 heures n'ont pas fait que du mal. Dans ce rapport, cet argumentaire est justement analysé. Il est vrai que les exportations ont diminué dans une certaine période, qui correspond à quelques mois ou voire même quelques années près, au passage aux 35 heures. Alors selon certains, ce serait dû à l'augmentation du coût de la main d'œuvre à ce moment-là, puisqu'on est passé aux 35 heures. Car si vous payez toujours le même prix à un salarié qui travaille 4 heures de moins, vous allez forcément devoir le facturer au client. C'est ce qu'il a été dit. Dans cette commission, Jospin a été interrogé et a dit qu'il trouvait étrange que l'on impute cela uniquement aux 35 heures. Il pense qu'on pouvait se tourner sur d'autres aspects, notamment la qualité, l'innovation des produits français. Et il prend soin d'ajouter qu'il est assez paradoxal de dire cela alors que la compétitivité française s'affaisse encore plus aujourd'hui, alors que les 35 heures sont détricotées de plus en plus. Donc ça veut dire que c'est totalement contradictoire de dire ça. Mais les porte-paroles libéraux, de ce point de vue, omettent volontairement ou non un tas d'autres choses sur ces 35 heures. Tout d'abord, il faut replacer ça dans le contexte économique particulier de l'époque, et plus précisément un contexte monétaire. Car le 1er janvier 2002, nous sommes passés à l'euro. Et l'euro, n'en déplaise à certains, a littéralement étouffé toutes les économies des pays de l'Europe du Sud, dont la France, le Portugal, l'Espagne font partie. Il y a d'autres pays, bien entendu la Grèce, etc. Alors du fait d'une monnaie trop surévaluée, c'est-à-dire une monnaie trop forte, en effet, quand sur le marché vous passez d'une monnaie comme le franc à une monnaie beaucoup plus forte, alors je rappelle le taux au moment du passage, 1 euro c'était égal à 6,55957 francs, et bien forcément vos exportations vont en prendre un coup. Vos produits sont trop chers car votre monnaie est trop appréciée. Handicap que n'ont pas subi les Allemands, qui eux bénéficiaient déjà d'une monnaie très forte. En effet, le taux de change au moment du passage à l'euro était de 1,9 Deutschmark pour faire 1 euro. Hein. Donc ça veut dire que grosso modo, à l'époque, 1 Deutschmark ça faisait 4 francs, 60 et des brouettes. Alors ensuite, parlons de l'économie du pays en elle-même. Les 35 heures ont fait baisser le chômage et ça, c'est avéré. Beaucoup de gens disent oui, non, mais on sait pas trop, patati, patata. Non, c'est avéré, c'est sûr. Les chiffres qui sont pointés dans ce rapport sont ceux-là. Le chômage calculé par l'INSEE, selon les règles du Bureau international du travail, qui permettent des comparaisons internationales, passe donc les chiffres du chômage de 11,8% de la population active en mars 98 à 8,8% en mars 2001. Ça fait, les relevés statistiques des demandeurs d'emploi de catégorie A de la NPE enregistrent une baisse de 600 000 du nombre d'inscrits entre 1999 et 2001. Cette baisse ne correspond pas à un transfert des demandeurs d'emploi de catégorie A dans les autres catégories de chômeurs, hein. C'est ce qu'aime bien faire en ce moment le gouvernement socialiste, enfin qui se dit socialiste. Il bascule certains chômeurs d'une catégorie à une autre, ou ils en dégagent certains d'une catégorie pour faire « Oh bah vous voyez, le chômage il baisse ». Non, c'est juste qu'il y a certaines personnes qui sont plus comptabilisées par les chiffres de Pôle emploi. Alors comme il est précisé, La baisse du chômage à ce moment-là tient en compte le fait que certains chômeurs peuvent basculer d'une catégorie. Catégorie de chômeurs. Et donc ceux qui accomplissent moins de 78 heures de travail dans le mois ou au-delà n'ont cependant qu'un temps très réduit. Donc les personnes qui sont dans les autres catégories, c'est-à-dire B et C, ont subi à cette période la même baisse que les autres dans la catégorie A. On peut alors dire que tout cela s'inscrit dans un contexte économique qui est atypique, car la croissance était positive partout dans l'Europe. C'est vrai que c'est souvent aussi l'argument que les libéraux vont nous balancer à la figure. Oui, non, mais les 35 heures, si ça a fait baisser le chômage, c'est juste parce qu'à l'époque, il y avait une forte croissance. Mais à ce moment-là est affiché, pour asseoir cet argumentaire en faveur des 35 heures, un graphique dans ce fameux compte-rendu qui prouve que la croissance de la France était supérieure à celle de toute la zone euro, d'environ 0,5 points. Alors qu'avant cette réforme, la France avait une croissance souvent inférieure du même différentiel à celle de la zone euro, c'est-à-dire avant cette fameuse réforme des 35 heures, la France avait en général un retard de croissance par rapport aux autres pays de l'Union européenne de 0,5%. Suite à la réforme, on était 0,5% au-dessus de la moyenne de la zone euro. Alors cette avance que l'on a prise sur les autres pays de la zone euro, elle s'est inversée de nouveau après 2002, où il y a eu ce fameux passage à l'euro, qui est certainement la raison qui aujourd'hui plombe en grande partie l'économie française, tout simplement parce que l'Allemagne verrouille tout et qu'il est impossible de pouvoir dévaluer comme la France le faisait souvent lorsqu'elle était au franc. Quand l'exportation prenait un coup, et ben on faisait une petite dévaluation, ça permettait de réexporter, ça donnait un coup à la balance commerciale et ça réentraînait toute l'économie derrière, chose qu'on ne peut plus faire aujourd'hui à cause de l'euro et de l'Allemagne. Alors on va se passer un petit morceau parce que là c'est très très dense et peut-être que je parle un peu vite et c'est pas évident, je l'avoue. J'essaye de me cadrer un peu et de me ralentir, mais le sujet est très dense, donc si je veux un peu pouvoir tout évoquer, il est pas indispensable, mais presque que je parle un peu vite. Alors on va se passer un petit morceau de musique. Alors ça c'est un groupe qui s'appelle Silverstein, le morceau s'appelle Massachusetts, et ça envoie du pâté. Voilà, alors après le morceau on se retrouve pour continuer à parler de la réduction du temps de travail. C'est parti. Donc c'était Massachusetts de Silverstein. Voilà, alors on reprend et on retourne à nos moutons. on va aborder un autre point maintenant, un autre argumentaire. On va toujours prendre la posture très économique, hein, très, j'allais dire scientifique, mais c'est souvent un mot galvaudé, mal utilisé. La science économique, c'est une science sociale, il n'y a pas de vérité à révéler. Alors on va aborder un autre point maintenant, c'est le coût de la main d'œuvre. Alors on entend aujourd'hui beaucoup parler du coût du travail. Alors beaucoup, c'est le moins qu'on puisse dire, on n'entend parler que de ça dans les médias. Déjà, il s'agit encore d'un de ces termes valises, hein, que l'on charge afin de lui donner une connotation particulière. Je vous renvoie au cours d'autodéfense intellectuelle pour en comprendre un peu plus le sens. Car oui, cela donne l'impression que le travailleur est une charge, il coûte. D'ailleurs, on ne dit plus travailleur, on dit salarié aujourd'hui, hein. Comme ça, on a l'impression que c'est quelqu'un qui perçoit un salaire et non quelqu'un qui travaille. Le travail n'a pas un coût, mais juste un prix. Et il ne coûte rien, le travail, c'est même lui qui rapporte de l'argent au contraire. Bref, donc ça c'est pour un peu désacraliser le terme de coût du travail, même si on veut aussi un peu l'utiliser dans ce petit exposé d'un argument. Tout ça pour dire qu'on ne peut pas parler de coût du travail seulement en évoquant l'aspect pécunier. Si un salarié est rémunéré en salaire direct et différé, c'est-à-dire les charges sociales, 20 euros de l'heure, cela n'a pas la même portée du tout si celui-ci produit plus en une heure en France qu'en Allemagne, par exemple, pour prendre notre titre indicatif, ça, puisqu'on parle toujours du coût du travail par rapport à l'Allemagne. Et c'est justement ce à quoi les libéraux ne font jamais référence. Ils aiment bien parler du coût du travail, mais ils ne parlent jamais de la productivité, du rapport à la productivité. Donc plutôt que de parler du coût du travail, il faut parler de ce qu'on appelle le coût unitaire, c'est-à-dire le coût du rapport entre la productivité et le prix de rémunération d'un travailleur. Ça c'est forcément quelque chose qu'il faut prendre en compte dans le coût du travail, sinon ça n'a aucun sens. Alors, et là, vu de cet aspect, la France est dans la moyenne de la zone euro. Je parle juste du coût unitaire du travail, c'est-à-dire le rapport entre productivité et coût et prix du travail. Elle est dans la moyenne de la zone euro, donc, et elle n'est pas le pays où, soi-disant, la main-d'œuvre qui est trop dispendieuse dans la zone euro, hein, chose qu'on entend tout le temps répéter aujourd'hui. Un autre a priori est déconstruit par ce rapport, c'est la durée du temps de travail. Beaucoup de libéraux aiment à dire qu'en France, on ne travaille pas assez, qu'on est assisté, qu'on est feignant, etc., qu'on va pas souvent au boulot, enfin, vous savez quoi, hein, on a l'habitude de l'entendre tous. Un autre graphique montre que la France avait une durée hebdomadaire de temps de travail qui suivait la même courbe que celle des Allemands. C'est-à-dire qu'il diminuait, hein, comme partout dans le monde la tangente va, hein, on travaille de moins en moins parce qu'on est de plus en plus efficace. Donc une courbe montre qu'en France et en Allemagne on travaille de moins en moins de temps chaque semaine. Seulement à partir de 2002 la tendance s'est inversée. La France est repassée sur des durées du genre 39 heures par semaine. En moyenne en 2013, là où en Allemagne la durée se situait entre 35 et 36 heures. Alors il faut préciser pour rester honnête que les Allemands sont les rois du temps partiel, donc ce qui peut un peu fausser les chiffres à certains moments. Mais quoi qu'il en soit, on était parti sur une dynamique de diminution du temps de travail et à partir de 2002, elle s'est complètement inversée en France et les deux courbes se sont totalement séparées. Et la tangente s'est inversée, donc c'est quand même assez significatif, ça signifie bien qu'il s'est passé quelque chose en 2002. Et ce qui peut expliquer aussi en partie les chiffres du chômage aujourd'hui. Un autre graphique, ou une série de chiffres du moins, est aussi très intéressante, c'est celle qui montre le taux de marge des entreprises. Beaucoup racontent aujourd'hui que les marges des entreprises se sont effondrées à cause des 35 heures, hein, parce que vous savez, les ouvriers, tout ça, ils coûte très très cher, et en plus ils travaillent pas. Alors du coup, les pauvres entreprises, elles sont toutes pauvres derrière, elles ont plus d'argent, elles savent plus quoi faire, elles sont miséreuses. On sait tous en réalité que c'est parce que les actionnaires dans les grosses entreprises en majorité se sont gavés, hein, ils ont siphonné tous les bénéfices pour s'en faire des gros dividendes. Et bien dans ce graphique, on voit très clairement que les choses restent relativement stables dans ce qui est des bénéfices des entreprises, enfin des marges dégagées par les entreprises, et que entre 98 et 2007, le taux de marge des entreprises françaises stagne entre 32 et 34%, donc c'est totalement stable. Bien maintenant, je crois qu'on a fait le tour, hein, pour ce qui est de l'argumentaire, des questions très techniques et économiques. Donc déjà, ça désacralise pas mal l'idée selon laquelle les 35 heures auraient massacré l'économie française. Et on va maintenant laisser la parole à un spécialiste du marché de l'emploi, un ancien inspecteur du travail, en l'occurrence Gérard Filoche, je pense qu'il y en a pas mal qui doivent le connaître, qui est au micro de Daniel Mermet et qui parle de la répartition du temps de travail et de la réduction du temps de travail. Voilà. Et il va même plus loin, il défend un point de vue qui n'est pas vraiment entendu souvent, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, dans les médias traditionnels. Et puis surtout même dans les gens qui sont au Parti Socialiste, parce qu'il n'y en a plus beaucoup qui sont de gauche aujourd'hui. Et donc il défend un point de vue et ce point de vue, et si les patrons étaient certains et certains gouvernants aimaient le chômage et si ça servait leurs intérêts à eux. On écoute tout de suite monsieur Gérard Filoche, ancien inspecteur du travail.
Il y a une chose sur laquelle tu reviens très souvent, c'est la réduction du temps de travail, ça c'est un de tes combats, et une notion qui est pas très claire dans les esprits, je trouve, assez souvent, c'est le gain de productivité. C'est-à-dire qu'on a fait des gains de productivité, mais ceux qui sont les instigateurs et les auteurs de ces gains n'en profitent pas.
Oui, la plupart du temps. Raison, ceux qui profitent de notre activité pour l'essentiel, c'est ceux qui se goinfrent de dividendes. Hein. C'est là que ça passe pour l'essentiel, et ça ne passe pas dans la redistribution des richesses entre ceux qui les produisent. Ça, c'est le premier élément, parce que, pour revenir à nos patrons tout à l'heure, une fois sur Internet, le gars, il me dit, mais arrête de taper sur je sais plus quel grand patron, il me dit, il fait vivre 50 000 personnes. Ben non, c'est 50 000 personnes qui le font vivre. C'est dans ce sens-là que les choses se font. Donc à partir de ce moment-là, quand il y a des gains de productivité, il faut que ça aille aux personnes qui en sont la cause. Donc on doit à la fois réduire la durée du travail pour le partager, et on doit à la fois augmenter le salaire parce qu'il y a de plus en plus de richesses. En France, en 170 ans, l'histoire du Code du Travail, c'est l'histoire de la réduction du temps de travail. De 1840, on est passé de la journée de 17 heures à 1820, la journée de 10 heures. Bon, la semaine, on connaît plus. On est passé de 40 heures en 36 à 35 heures en 2002. Et je dis toujours à tout le monde qu'on a fait ça en prouvant que la réduction du temps de travail était absolument nécessaire, possible et efficace.
Possible, grâce à ces gains de productivité, justement.
Bah oui, mais comment ça s'est passé? C'est qu'en 70 ans, de 36 à 2002, on a produit plus, bah personne ne peut le nier. On a créé plus d'emplois, bah oui, ils ont doublé en nombre. On a gagné plus, bah oui, quand même, le niveau de vie s'est augmenté. Et ce, en travaillant moins. Ce sont des imbéciles absolus, ceux qui veulent faire tourner la roue de l'histoire à l'envers, et qui nous disent maintenant faut travailler plus longtemps et gagner moins. Au contraire, le sens du développement de notre société, et pour accueillir les jeunes qui vont venir sur le marché du travail, c'est la réduction du temps de travail. On ne peut pas réduire le chômage de masse sans réduire la durée du travail, c'est impossible. On a 850 000 naissances depuis l'an 2000. 850 000, ça, on a un plein boom démographique. Ceux qui sont nés en l'an 2000, ils ont 18 ans dans 4 ans, 3 ans. Ben, ils sont sur le marché du travail. Chaque année, il va arriver 350 000, 400 000 jeunes de plus. En 10 ans, nous passons à 10 millions de chômeurs si on ne réduit pas la durée du travail. C'est pas des emplois jeunes, des contrats génération qui vont régler le problème. Ça peut faire baisser de 15 000 en un mois, mais ça fait pas baisser 6 millions, 7 millions, 8 millions, 9 millions de chômeurs.
Est-ce que tu crois que le chômage est une volonté?
Oui. C'est catégorique. Quand Michel Sapin disait toute l'année 2013, nous voulons inverser la courbe du chômage. On attend tous les mois l'inversion de la courbe du chômage. Mais je vous le dis, la loi qui est, du 14 juin qui est sortie de l'ANI, elle facilitait les licenciements. C'était pour faire qu'ils aillent plus vite, avec moins de résistance, et qu'ils soient plus efficaces. Macron lui-même aggrave le phénomène. Dans sa loi, il prend quatre mesures qui aggravent les licenciements. Et lui-même, il a écrit dans la tribune, Macron, je ne suis pas là pour protéger les emplois existants. Ils sont là pour aggraver. C'est des lois pro-chômage. Et la preuve, c'est qu'ils avaient dit aux directs. Les directs, c'est les anciens directeurs du travail, sous-préfets maintenant, qui décident de tout et qui homologuent ou pas les plans sociaux. Mi-juillet 2013, ils ont dit aux directs, la consigne, c'est zéro refus d'homologation des plans sociaux. Laissez tout passer. C'est-à-dire les mêmes qui disaient on veut inverser la courbe de chômage, ils disaient à leur directeur du ex du travail, à leur sous-préfet, laissez tous les licenciements se faire. Et ils ont même été surpris, parce qu'au lieu des... Puisque ça passait plus par les juges des chambres sociales, c'est passé par le tribunal administratif. Les tribunaux administratifs se sont mis, tellement les décisions des directs étaient rapides et non fondées juridiquement, se sont mis à les casser. Et ils bloquaient, c'était les TA qui bloquaient, tribunaux administratifs qui bloquaient l'administration. Et qu'est-ce que fait Macron? Eh bien, il décide maintenant que quand un tribunal administratif bloque un plan social, les salariés n'en retirent aucun avantage. Ils ne sont ni réintégrés, ni indemnisés. Il faut qu'il y ait un acharnement pour arriver à dire on veut faire les licenciements, on ne veut pas qu'il y ait de compensation, on ne veut pas qu'il y ait de recours, on va diminuer les prud'hommes pour que les salariés n'aient plus de droits, on fera des commissions d'arbitrage sous l'autorité des patronats, et on fera que ça ne fonctionne plus toutes les tentatives des salariés pour défendre leur emploi. Je ne défends pas les emplois existants, dit Macron. Je vous donne la preuve que cet homme-là veut augmenter le chômage. Et pourquoi il veut augmenter le chômage? Pas parce que c'est la pression sur les salariés pour qu'ils se battent pas pour leur salaire. Et puis d'autre part, c'est ce qui va permettre d'augmenter l'ensemble des dividendes pour les 1000 de plus de 1000 qui dirigent tout. Ils aiment le chômage, les patrons.
Et voilà, ça, C'est un point de vue qui est rarement exposé dans les médias. Bon, là, ce n'est pas un média traditionnel, hein, heureusement. Ça serait totalement étonnant. Donc, c'est dans l'émission de Daniel Mermeillat que Filoche part sur cette idée qui est totalement réaliste, selon nous, selon moi. Et donc, c'est assez inhabituel, mais c'est, à mon avis, plus vrai que vrai. Comment expliquer que les politiques que l'on élit et ayant toutes les cartes en main pour contraindre certains employeurs à ne pas licencier quand ils font des bénéfices, dans ces situations, ne bougent jamais une seule oreille. Plus il y a de chômage et moins les salaires augmentent, car on dit à la personne qui se plaint de ne pas être assez payée, bah tu sais quoi, si t'es pas content, t'as qu'à aller voir ailleurs. Moi j'en ai trois comme toi qui attendent devant la porte. Et de plus, ça fait porter donc le fait de faire profiter le chômage, de faire proliférer le chômage, ça fait porter à la collectivité le poids de l'indemnisation chômage, car c'est l'État qui doit se charger de tout ça et de donner des allocations aux pauvres personnes qui ont pas de boulot et qui doivent vivre quoi. Alors, point de vue très intéressant et à mon avis très très réaliste sur l'envie qu'a une certaine élite de faire proliférer le chômage. Revenons-en à nos moutons. Cette fameuse commission en est venue aux conclusions suivantes, enfin du moins la rapporteuse Madame Romagnan en est venue à ses conclusions. Alors j'ai choisi un petit passage qui dit ceci. Compte tenu du bilan que l'on peut en dresser, je ne vois aucune raison de ne pas poursuivre la réduction du temps de travail. Le chômage a baissé comme jamais auparavant et la création d'emplois a été d'une ampleur jamais connue sans que les comptes des entreprises ni les comptes publics aient été dégradés. Il me semble que ce sont là toujours nos objectifs, même si le contexte est bien différent, notamment au regard de la croissance et du poids de l'endettement public. Donc la conclusion est claire pour elle, il faut poursuivre cette politique de diminution du temps de travail. Pour elle, il faut, comme le dit Filoche, penser à passer aux 32 heures et peut-être même moins. Filoche dit des fois qu'il faut aller plus loin que ça. Mais pour l'instant, commençons déjà par la 32 heures. Alors, les conclusions qu'elle en tire, elle dit que la réduction du temps de travail n'est pas forcée de se faire de manière hebdomadaire et directe, mais par exemple en optant pour des comptes RTT, etc. Car elle met aussi en avant, lors de ses conclusions, le fait que cette réduction de temps de travail a énormément apporté au confort de vie des gens. Qui fait que, forcément, quand ils sont au travail, ils sont encore plus productifs parce qu'ils sont en bonne santé, ils profitent de leur vie en dehors, ils peuvent se cultiver, se former, car on sait qu'aujourd'hui dans l'emploi, il est très rare que les gens aient une carrière du début à la fin de leur carrière professionnelle qui la passe dans la même entreprise. Donc souvent les gens aiment bien faire des formations en dehors, etc., etc. Et donc ça permet un épanouissement qui forcément rend service à la productivité, parce que plus quelqu'un est instruit, plus il est cultivé et plus il est efficace dans son travail, et aussi plus il est à l'aise, plus il est efficace. Donc, tout n'est pas qu'une question de chiffres. Le bien-être apporté par ces 35 heures et la diminution du temps de travail en général, le bien-être apporté à la compétitivité de l'économie est un fait établi et il faut en prendre compte. Et donc, cette dame dit qu'il faut vraiment en prendre compte. Alors, il en est ainsi, mais souvenez-vous, monsieur Rebsamen, qu'on a entendu au début de cette émission, hein, qui disait « Oui, on a vu le résultat du rapport, mais bon, moi, c'est pas ma position, c'est comme ça. » Donc, il a lu ce rapport, mais il dit dans cette interview que c'est pas sa position. D'accord, donc vous êtes ministre du Travail, cher monsieur. On vous amène une étude commandée qui prouve par divers aspects que la diminution du temps de travail est un fait historique, qui suit toujours la même tangente, qu'il est bénéfique à la création d'emplois et même à l'économie française. Et vous dites, moi, ce n'est pas ma position. D'accord, alors vous êtes missionné pour faire quoi? Pour faire baisser le chômage ou pour faire autre chose? Alors, on commence à se poser des questions quand même. On est en droit de se demander à quoi servent ces personnes qui se font élire sur un programme qui a pour objectif l'inversion de la courbe du chômage et qui, en fin de compte, ne prennent absolument aucune décision pour que ce fait prenne forme et pour réellement que la courbe du chômage s'inverse. En plus, si on y réfléchit deux secondes, juste le fait qu'on parle d'inversion du courbe du chômage, c'est aussi un peu une escroquerie, parce que si on monte à 10 millions de chômeurs et qu'au bout d'un moment ils inversent la courbe, c'est génial, c'est qu'on aura à peine diminué d'un peu moins de 10 millions les chômeurs. Non, l'objectif c'est vraiment de faire diminuer le chômage dans une grande amplitude, et ça a pas l'air d'être leur objectif. Alors c'est très étonnant, hein, qu'il n'ait pas envie de faire baisser le chômage et qu'il n'ait pas envie de prendre les décisions qui s'imposent plus ou moins à lui. Et c'est un peu comme si vous demandiez combien fois 1 plus 1 et que je vous répondais bah 2 monsieur, et que vous me répondiez derrière bah je suis pas d'accord avec ça. Voilà, donc c'est demander l'avis de quelqu'un, l'écouter, et puis ça, même si sa réponse elle est évidente, bah lui dire non, mais en fait je m'en fous de ce que tu dis, c'est pas comme ça que je vais faire, j'ai déjà pris ma décision. Pour se donner bonne conscience, on pose la question, mais en fait la réponse elle est déjà tranchée à l'intérieur de notre tête. C'est un peu ce que fait Monsieur Rebsamen. Alors, la question qu'on peut se poser, cela cache-t-il quelque chose? Alors là, on écoute une autre émission de Daniel Mermet, qui diffuse de toujours sur Internet, hein, depuis le 21 janvier, le jour de la tête de veau. Cette émission avait pour thème les banques, et l'émission s'appelait Bouffée du banquier, hein, toujours un peu taquin, Daniel Mermet. Les invités étaient des spécialistes des banques qui ont écrit un bouquin que je recommande à tout le monde, même si moi pour l'instant je ne l'ai pas lu, mais qui a l'air d'être super intéressant. Alors ce bouquin s'appelle « Le livre noir des banques ». Alors là, la personne que l'on va entendre en compagnie de Daniel Mermet est un ancien employé d'une banque, de Dexia, qui est syndiqué chez Sud et qui a refusé de vendre des prêts qu'il savait toxiques. Il a refusé de les vendre aux collectivités locales. Donc ça veut dire que maintenant les banques privées viennent se beurrer sur les comptes de l'État, hein, sur les collectivités locales. Donc lui, il a refusé de le faire. Il explique en détail pourquoi dans l'émission, hein, et comment tout ça s'est mis en place. Malheureusement, on n'a pas tellement le temps, nous, de tout expliquer, de tout écouter, de tout décrypter, parce que l'émission doit durer qu'une heure. Et donc si jamais vous avez envie d'en savoir un peu plus, hein, je vous invite vraiment à vous abonner à cette émission, parce que c'est très très intéressant. Malheureusement, on n'a pas le temps de tout écouter, mais écoutons la fin de ce petit exposé qu'il fait sur ces fameux empreintes toxiques qui étaient faites aux collectivités locales et qui peut-être vont dénouer un peu cette histoire de Monsieur Rebsamen. Pourquoi Monsieur Rebsamen fait semblant d'avoir envie de faire baisser le chômage et ne fait absolument rien pour que ceci arrive? Alors écoutons ce que va nous dire ce personnage qui a travaillé dans une banque et qui est syndiqué chez Sud.
Racontez-nous, Patrick Sorin, on a évoqué ça en commençant, votre boulot qui consistait à vendre des emprunts toxiques à des collectivités locales. Je crois que c'était à la ville de Dijon.
Alors, Dijon, c'est autre chose. Mais Dijon...
J'ai confondu le truc.
Non, mais je vais parler de Dijon aussi. J'étais effectivement chargé de clientèle sur le secteur des collectivités locales, et mon travail pendant une dizaine d'années, c'était de proposer des financements aux communes. Et au début de l'année 2000...
Vous saviez que c'était toxique, non?
Alors, au début de l'année 2000, j'ai vu arriver des financements. Oui, j'ai vu que ces financements n'étaient pas adaptés. Ils comportaient beaucoup de risques parce qu'ils étaient indexés sur les monnaies et que les collectivités publiques, elles n'ont pas le droit de se livrer à des activités spéculatives, mais doivent uniquement agir pour des opérations d'intérêt général. Et quand j'ai vu ça, j'ai refusé de commercialiser ces produits. J'ai eu de grosses pressions parce que ces produits rapportaient 2 à 3 fois plus à la banque que les prêts classiques. C'est pour ça qu'il fallait en vendre. Et donc, moi, j'ai refusé de vendre ça, mais je n'avais aucune preuve parce que ces produits sont tout à fait pervers, puisque les 3 premières années ou les 5 premières années, il y a un taux qui est tout à fait intéressant, avantageux, un taux bonifié. Par contre, le risque, il survient après. Et le risque, il est apparu avec la crise de 2007-2008, où là, les taux ont explosé, ont atteint des 15, 25, 30, voire davantage %, et les collectivités se sont retrouvées prises à la gorge. J'ai eu raison, et plus tard. Et il se trouve qu'en 2004, ma direction, voyant que je ne vendais pas ces produits, m'a renvoyé dans un autre service de la Caisse d'épargne, et j'étais pas mécontent de...
Mais vous étiez nombreux à vendre ces produits? Comme personnel, comme salarié, quoi, vous...
Tous les salariés étaient obligés de vendre ces produits quasiment. Moi, il se trouve qu'en tant que syndicaliste, je fais travailler un petit peu mon cerveau, peut-être un peu plus que mes collègues. Bon, je dis ça sans animosité, mais il y a une grosse pression, puis je suis peut-être plus résistant face à des pressions qui sont exercées pour commercialiser ces produits. Moi, je n'en ai pas vendu. J'ai refusé d'en vendre, donc pour des raisons déontologiques.
Mais ça veut dire qu'il y a des collectivités locales qui sont victimes de ces emprunts toxiques.
Quand l'affaire est sortie en 2011, il y a eu un grand article dans Libération, suite à un listing de Dexia qui avait été subtilisé. Eh bien, il y avait 5000 acteurs publics locaux qui étaient pris au piège.
5000 ?
5000. Des communes, des départements, des hôpitaux, des associations, des organismes de logement social. Donc, tout un ensemble de structures. Le près d'ici, donc le Conseil général de Seine-Saint-Denis, avait 97% de sa dette en emprunt toxique. Parce que les banques, pour faire la culbute et gagner 3 fois plus.
C'est une énorme arnaque.
Ah, tout à fait.
Organisée. Alors, qui organise ça? Comment ça fonctionne?
Alors,
qui décide? Qui sont ces cyniques?
Alors les cyniques, ils sont plusieurs. Il y a des ingénieurs qui calculent des formules un petit peu tarabiscotées pour faire en sorte que les banques margent au maximum sans prendre de risques, parce que ces produits sont un petit peu compliqués. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il faut savoir que chaque fois qu'une banque propose un emprunt toxique à une collectivité, elle a pris soin, elle, de s'assurer. Et finalement, qui porte le risque ? Contrairement à ce qui doit se passer pour un emprunt, ce n'est plus la banque, mais c'est le client qui supporte tout ça. Et aujourd'hui, on a des milliers de collectivités qui sont aux prises avec cela et qui sont allées jusqu'en justice pour attaquer, attaquer les banques. Alors, vous avez cité le cas de Dijon. Le cas de Dijon est tout à fait intéressant parce qu'il met en scène un personnage que l'on connaît bien, qui s'appelle François Rebsamen, qui est actuellement le ministre du Travail, mais qu'on ferait mieux d'appeler ministre du Chômage. C'est ainsi qu'on l'appelle, donc nous, dans le milieu. Et cette personne a fait souscrire à sa ville de Dijon 47% d'emprunts toxiques jusqu'en 2008. Or, il faut savoir que jusqu'à cette date-là, François Rebsamen était également membre du conseil d'administration de Dexia, auprès de qui il souscrivait ses emprunts toxiques, et il touchait 20 000 euros de jetons de présence par an. Et ça ressemble un petit peu à de la prise illégale d'intérêt.
Voilà qui est clair, Fantomas est démasqué. Tout s'explique. Une partie des choses peut s'expliquer là. Alors, est-ce que tout cela choque-t-il quelqu'un ? Bien entendu, j'espère que oui. Seulement, quel média aujourd'hui donne la parole à des gens comme ceux-là qui nous éclairent sur la situation économique dans ce pays ? Si les gens pouvaient entendre ce genre de constat affligeant à des grandes heures d'écoute, forcément, ils voteraient aussi différemment. On entend que ce brave monsieur qui est censé être le ministre du Travail, qu'on appelle de manière taquine le ministre du Chômage, en fait, apparemment dans le milieu où traîne ce jeune homme, on traîne cette personne. Ça veut dire que monsieur Rebsamen a été au conseil d'administration d'une banque pendant quelques années, pendant même très longtemps, peut-être qu'il l'est même encore aujourd'hui, et il a fait contracter à sa ville de Dijon et à ses collectivités locales des emprunts toxiques à près de la moitié du budget, à hauteur de la moitié du budget. Donc ça veut dire que les collectivités locales sont en train de se ruiner à cause de ce garçon-là, qui a fait certainement volontairement emprunter ses collectivités, puisque lui était au courant de ce qui se passait, puisqu'il était au conseil d'administration de la banque en question. Donc on en revient toujours au même problème, c'est que ce système est pourri. Il permet aux hauts fonctionnaires de passer d'une banque à une place de ministre, et ainsi de faire passer des réformes pour leurs anciens copains, et puis par la suite de préparer leur pantouflage dans les mêmes banques, une fois leur carrière de ministre terminée. Banque où on les accueillera les bras grands ouverts et on leur donnera un bon petit salaire pour les remercier de leur dévotion au moment où ils avaient des fonctions de haut fonctionnaire. La conclusion, c'est qu'il faut renverser la table tout simplement et changer ce système pourri, ne plus permettre aux élus ce genre de navigation d'un coin à l'autre de la table, d'un milieu à l'autre pour faire passer les réformes des copains, avant qu'ils s'en mettent encore plus dans les poches, parce que c'est ça l'objectif. Alors, l'objectif, c'est pas de dire que ce sont des démons, non, ne prenons pas le versant manichéen du débat, parce que comme ça ne fonctionnera pas, personne ne nous écoutera. Ils ont juste des intérêts différents des nôtres. Et ça m'a tout l'air d'être la lutte des classes. Si on veut s'attaquer à cela, c'est tout simplement qu'il faut taper dans la caisse et aller leur prendre de l'argent. Seulement, des gens comme M. Rebsamen, ils n'ont pas envie de le faire parce qu'ils sont copains avec ces gens-là. Donc pourquoi il irait faire diminuer le chômage, ce qui rend service au grand patronat et aux banques, alors que lui-même est complice de tout ça, ami avec eux, et en plus qu'il touche des dividendes, enfin qu'il touche de l'argent grâce à ces banques-là. C'est un peu comme s'il se tirait une balle dans le pied, donc forcément il n'a pas envie de le faire. Donc Monsieur Rebsamen ne veut pas que le chômage diminue non plus, sinon il opterait pour la régulation, car qui peut croire que c'est en facilitant les licenciements qu'on fait diminuer le chômage ? Ça c'est une absurdité qui est tout le temps mise en avant. On prétend que les patrons se sentent insécures face à l'embauche de salariés, comme si le CDI ne permettait pas de licenciement. Faudrait peut-être arrêter de nous prendre pour des abrutis. On sait très bien que un patron peut embaucher, De toute manière, avec le nombre de contrats différents qu'il existe, il peut toujours trouver un moyen d'embaucher quelqu'un pendant une période si vraiment il est dans le doute. Mais même si, au pire, il contracte un CDI avec le salarié, on sait tous très bien, et on a tous entendu autour de nous, quelqu'un qui était en CDI et qui s'est fait lourder. Ça arrive tous les jours, donc qu'on arrête de nous faire croire que le CDI, c'est une espèce de chaîne que l'on met autour du bras du patron et que derrière, il peut plus rien faire et que c'est lui qui va couler si jamais il y a un litige ou si jamais il veut se séparer du salarié. Donc voilà pour un peu remettre en place le discours tenu par des gens comme Monsieur Rebsamen, parce que mine de rien, tout ceci s'est passé à une heure de très grande écoute dans la matinale de France Inter, qui est la matinale la plus écoutée de France. Au passage, il a balancé 2-3 mots comme ça à l'arraché, du genre c'est pas ma position, ou on ne tend pas vers une diminution du temps de travail, au contraire. Et en fait, si on se met vraiment à creuser sur ce qui se passe et ce qui s'est passé, des commissions d'enquête ont été nommées pour étudier et savoir si réduire le temps de travail est quelque chose d'efficace pour la réduction du chômage. Les études qui sortent prouvent que oui, et par tous les aspects, hein, que ce soit en termes de productivité, de tout ce que vous voulez, c'est bénéfique pour l'économie française, en restant dans des critères, encore une fois, très rationnels et très économiques, très froids même à certains moments, parce qu'on pourrait se dire oui, mais même peu importe si c'est pas bon pour la croissance, faut bien qu'il y ait des gens qui aient du boulot, quoi. Donc déjà cet argument pourrait être soutenable, mais même si on ne va pas jusque là et qu'on prend pas cette posture là, posture que certains dénonceraient comme une posture idéologique, par contre quand eux ils font de l'idéologie, c'est pas de l'idéologie bien entendu, même en prenant cette posture là, en prenant la posture économique qui s'appuie sur des critères purement rationnels, leur théorie selon laquelle la diminution du temps de travail est mauvaise pour l'économie est totalement fausse, elle ne tient pas debout. Donc ça permet de désacraliser totalement ça et de se rendre compte que vous voyez à l'envolée ce petit personnage sympathique qui pendant 1 minute 30 il a fait croire que bon, il a bien entendu que on pouvait penser à la diminution du temps de travail, mais que bon, il pensait que c'était pas forcément raisonnable et que c'est pas comme ça qu'on y arriverait. Et c'est passé comme une lettre à la poste pour, je sais pas, une grande majorité des personnes qui écoutaient cette interview à ce moment-là. Alors qu'en fait, ce que l'on ne sait pas au sujet de cet homme, c'est que il est en accointance totale avec les banques et que lui, il a pas envie de réduire le chômage, tout simplement. C'est pour ça qu'il raconte n'importe quoi. Voilà, pour la conclusion concernant ce petit billet au vitriol sur Monsieur Rebsamen. Alors on va se passer un petit morceau de musique avant de terminer l'émission. Alors là c'est un morceau un peu comique, un peu même, ouais si totalement, qui est l'œuvre de Monsieur Didier Super, qui s'appelle « Manipulez-nous mieux ».
On est perdu, on croit plus rien. Même les vieux, ils ont capté qu'en fait, notre président, c'est pas lui qui dirige vraiment. Que nos vrais chefs, c'est des banquiers qui ont réussi mieux que lui. Et c'est pour ça, droite ou gauche, ça reste plutôt à droite. Même ma mère, elle a capté que la crise n'existe pas, que c'est l'invention de certains gros riches pour vendre nos usines aux Chinois. Et elle dit qu'on gagne les élections comme on vend des yaourts, simplement en passant à la télé tous les jours. Tout le monde a compris que les infos, ça sert juste à nous faire peur, en nous montrant la merde des autres pour qu'on se contente de la nôtre. Alors vous les beaux costards qui décidez de notre sort, ne nous laissez pas comme ça, ça fait trop peur, faites un effort. Manipulez-nous mieux, construisez vos piscines en fermant toutes nos usines. Mais putain, faites-nous rêver, faites-nous croire que vous nous aimez. Manipulez-nous mieux, servez-vous dans nos frigos, nos impôts c'est déjà cadeau. Mais faites-nous croire qu'il y a des martiens, ça fera moins peur que croire en rien. Même les enfants dans les écoles demandent qu'à croire cette histoire, que si au pays des barbus, y en a qui nous veulent pas du bien, c'est juste à cause d'une religion, et donc ça n'a aucun lien avec les militaires qu'on leur envoie régulièrement pour leur bien. Manipulez-nous mieux, manipulez-nous mieux, à fallait juste un petit effort. On vous demande pas grand chose. Vous savez aussi bien que nous qu'on n'a pas inventé l'eau chaude. La plupart d'entre nous, on aime bien se contenter de peu. On cherche pas à réussir et encore moins à diriger. On n'a pas très envie de passer à la télé et encore moins envie d'être reconnu dans la rue. La plupart d'entre nous, on saurait pas quoi foutre d'un yacht. On n'a pas l'intention de laisser notre nom dans l'histoire. On voit pas l'intérêt d'accumuler autant de milliards. Et c'est sûrement ça qui prouve que par rapport à vous, en fait, si ça se trouve, eh ben, en fait, on est évolué.
Serrons-nous les coudes. Ne laissons pas l'idéologie du chacun pour soi nous bouffer. Réfléchissons toujours, saisissons-nous des sujets de société. Arrêtons de dire « moi la politique, je m'y intéresse plus parce qu'ils sont tous pourris ». Ne pas voter, c'est une chose, mais ne plus s'intéresser à la politique, c'en est une autre. Je ne parle pas de la politique politicienne, des histoires entre l'UMP et le PS ou tous les autres partis, mais de la vraie, la politique, la noble. Car la politique, c'est avant tout organiser la vie en collectivité, le vivre ensemble. Et si on ne s'en occupe pas, si on ne s'implique pas, d'autres le feront pour nous. Si on ne s'occupe pas de la politique, elle s'occupera, elle, de nous. Si tu ne votes pas, essaye de militer. Si tu ne veux pas militer, essaye au moins de voter. Si tu ne veux faire aucun des deux, c'est dommage, car ton aide peut nous être précieuse. Si tu ne veux faire aucun des deux, tu participes indirectement au chacun pour soi. C'est un peu comme si tu disais « je m'en fous, je vis ma vie, le reste de la société, je m'en tamponne ». N'oubliez pas, ne croyez jamais personne sur parole, creusez. Restez vigilant face à vos propres perceptions. Et même si on ne va pas se mentir, l'horizon a plutôt l'air de s'assombrir pour les militants de l'autre gauche, restons optimistes. Personne n'aurait cru en 1944 qu'un an après la guerre serait fini et surtout que les CNR imposeraient une action sans précédent pour la solidarité et les services publics. Serrons-nous les coudes et ne laissez personne vous dicter ce que vous devez croire. Même pas moi. Un peu de tolérance, de bienveillance, d'indignation, et on en reviendra aux jours heureux.
Of war, sweet union.
C'était One Vision du groupe Queen. Et donc, nous arrivons au terme de cette émission, de cette dernière émission. Donc, je vous rappelle que vous pouvez prendre contact avec la CNT si jamais vous avez le moindre souci, que l'émission Les Yeux Grands Ouverts n'existe plus pour le moment. Peut-être qu'il y aura des interventions de ma part dans d'autres émissions. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes de la prog de Radio Canut de m'avoir laissé la possibilité de faire cette émission, de m'avoir donné la chance. Je les remercie pour tout. Je remercie aussi toutes les personnes qui sont dans l'émission juste avant moi, La Causerie, pour leur gentillesse. Et puis pour tout le reste, toute la franche camaraderie qu'il y a eu ici. Et donc, je reviendrai certainement à l'occasion. Et puis, que dire de plus? Eh ben, que c'était une super expérience, que c'est pas totalement terminé, que la page des yeux grands ouverts continuera à fonctionner sur Facebook, les informations continueront à tourner, je réfléchis éventuellement à la possibilité de faire une émission de temps en temps qui sera relayée par un petit compte SoundCloud ou quelque chose dans ce type-là. Je remercie également toutes les personnes qui ont participé à certains moments à l'émission. J'ai pas eu énormément d'invités parce que c'est une horaire un peu compliquée. J'aurais bien aimé creuser plus certaines choses et faire des petits reportages ou des choses comme ça. Malheureusement, le temps commence à manquer, donc c'est très compliqué. Donc je remercie Quentin Froment d'avoir participé à l'émission, Jules Guinet aussi. Et puis voilà. Et ben, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Déjà dans un premier temps, un bon dimanche et un bon lundi aussi, parce que souvent le lundi c'est pas tout à fait facile. C'est même pas évident du tout. Et puis, ben, à très bientôt sur l'antenne de Radio Canut, j'espère. Et bonne continuation. Courage, c'est pas terminé. On va essayer de renverser la table. Et serrons-nous les coudes. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Allez, bonne fin de journée et bonne continuation à vous tous. Bonne fin de soirée plutôt d'ailleurs. Allez, amour et révolution. Et à plus. Ciao.